Alors oui, Matthieu 25, quelqu'un m'a demandé de préciser sur cette lecture. Vous savez, nous les cathos, on souffre d'un complexe, le complexe du catho. Ça veut dire être chrétien, il faut montrer l'exemple, il faut toujours être meilleur que les autres. Donc on se taille une sainteté à la force du poignet, puis on est vachement complexé parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. C'est ça qui est bête, hein. C'est vraiment bête. Vous voyez ? Surtout quand il y a des chutes et des histoires qu'on connaît, ben zut, alors on fait du déni parce qu'on est complexé. On est des cathos, on est des gens complexés qui vont vraiment montrer l'exemple. Et à plus forte raison, les prêtres. Imaginez-vous le poids qui pèse sur mes épaules. Et moi qui ai parfois un caractère de cochon, voilà, il faut vivre avec. Bon. C'est pas ça être chrétien. C'est accepter qu'on n'est pas meilleur que les autres. Alors ça libère déjà d'un bon poids. Mais voyez-vous, on souffre de nouveau d'une lecture moralisatrice de la Bible. Qu'est-ce qui est au début des évangiles ? Ce n'est pas « tu feras ceci, tu feras cela », mais c'est « tu es aimé de Dieu ». Il y a cette voix qui vient du ciel, « celui-ci est mon fils bien-aimé, moi en lui j'ai eu tout mon amour », vous savez, le baptême. Et puis la voix du Père éclate quand Jésus est descendu, tenez-vous bien, dans le merdier. Il a de la merde jusqu'aux genoux, pour ne pas dire plus. Dans le Jourdain, c'est comme ça, des ponts où on descend dans le Jourdain, vous avez le merdier jusqu'aux genoux. Mais il est descendu dans le merdier, pourquoi ? Pour dire à tous ceux qui étaient dans le merdier, mais donne-moi ta main, je suis venu pour te rechercher. Et c'est à ce moment-là qu'éclate la voix du ciel, tu es mon fils et moi je t'aime. C'est comme ça que commencent les évangiles. Si je t'aime, que je te retire du bourbier, tu peux aller plus loin. Tu peux avoir confiance en toi. Tu peux aller vers les autres. Tu peux les aimer avec tes difficultés. C'est à cette lumière qu'il nous faut lire ce qu'on appelle les 10 commandements. Oui, mais il y a les 10 commandements. Tu dois, c'est trop facile. Non, c'est pas vrai. Le message des évangiles commence pas par un « tu dois », mais par un « tu es ». Tu existes parce que tu es aimé. Tu existes et tu es aimé jusque dans ton merdier. Donc ensuite, les 10 commandements, ça ne va pas devenir des « tu dois », ça veut dire « puisque tu es aimé, tu peux aimer ». Et vous lisez en bas, crac, les 10 commandements, « tu peux aimer Dieu, le sanctifier, tu peux aimer ton prochain comme toi-même, tu peux ne pas voler, tu peux ne pas piquer la femme de ton prochain, de ton voisin, tu peux ». Parce que tu es aimé. Voilà comment on peut comprendre les 10 commandements. Alors, ils sont importants, ces 10 commandements, mais ils ne sont pas premiers. Ce qui est premier, c'est l'expérience d'une libération, mais bon sang. Qu'est-ce qui précède les 10 commandements ? C'est la libération d'Égypte. C'est un peuple libéré, c'est un peuple qui a fait l'expérience d'un Dieu qui les libère et qui les aime. Et qui veut à son tour libérer les autres. Et là, vous avez les 10 commandements, ces 10 points de repère. Tu peux, parce que tu es aimé, tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin. Après l'âme qui est transformée, bouleversée, portée par ce « tu peux », va dire « je veux aller plus loin ». Et pourquoi pas des coups de pied au derrière de temps en temps, pour ne pas dire des coups de pied au cul, je dois aller plus loin. Vous avez saisi ? On se donne des coups de pied au cul là. Je dois aller plus loin. Comprenez ? Mais ce qui est premier, c'est recevoir la grâce d'aller plus loin. C'est accueillir ce Dieu qui vient m'habiter, qui bouleverse mon cœur et ma vie. L'évangile, c'est ça, sinon on peut fermer la boutique. Donc, on peut lire les évangiles de la manière moralisatrice. Tu dois. Mais c'est pas normal que l'ouvrier de la dernière heure, il est accueilli comme... C'est pas normal parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait, ce qu'il devait, ce qu'il devait, ce qu'il devait. T'es jaloux parce que Dieu l'aime. Tu es jaloux parce que Dieu l'aime, même s'il n'a pas fait ce qu'il devait. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Matthieu 25, alors on y va. J'étais en prison, j'étais malade, j'étais nu, j'étais affamé. Tu m'avais vêtu, tu m'as donné à manger, tu es venu. Waouh! Seigneur, est-ce que je t'ai vêtu? Est-ce que je t'ai donné à manger? Est-ce que je suis allé te voir? Est-ce que j'ai fait ce que je devais? C'est pas faux. Mais c'est mettre la charrue avant les bœufs. Mais pour qui je me prends pour aller vers le pauvre? Boum boum, voici Mère Teresa, ambulance, 4x4. Mais pour qui je me prends pour Mère Teresa? Pour l'abbé Pierre? Alors, je lis Matthieu 25, je me dis, boum boum, un chrétien, il doit faire comme c'est écrit. Mais je serai un chrétien vachement supérieur aux autres. Puis qui suis-je pour tout avoir, pour donner? Qui suis-je pour avoir toutes les réponses? Mais est-ce que je suis gonflé ou quoi? Mais je ne peux pas aller vers les autres si d'abord je n'ai pas accepté que quelqu'un soit venu vers moi. Sinon, je vais apparaître en compétiteur, en supérieur de l'autre. Et c'est là que je vais brandir ma fameuse doctrine comme une arme. Oui, mais je vous rappelle que la doctrine dit ceci ou cela. Parce que tu as rencontré l'autre à qui tu dis ça d'abord. Alors on tombe dans le publicain qui est au sommet du temple, qui prie, qui dit « Moi Seigneur, je te remercie vraiment ». De ne pas être comme ce pauvre type qui est au fond du temple, lui il n'a rien compris. Moi je jeûne toutes les semaines, enfin je ne sais pas quoi, je donne un peu de ce que j'ai aux pauvres, je fais ceci, je ne fais pas cela. Alors est-ce que je vais aller vers les autres comme un publicain ou comme un frère? Donc Matthieu 25, je disais, la soifée de tendresse, est-ce que c'est pas moi? Le prisonnier d'un tas de dépendances, est-ce que c'est pas moi? Celui qui se sent nu, vulnérable, pitoyable, coupable parfois, est-ce que ce n'est pas moi? Celui qui a tellement besoin de reconnaissance, est-ce que ce n'est pas moi? C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Il ne faut pas commencer à se dire, il est où le pauvre? Parce que le pauvre, c'est moi. Et c'est moi qui ai d'abord besoin d'être visité. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Tout ce que tu t'auras fait à toi-même, le soin que tu auras pris de toi-même, la vérité que tu auras vue sur toi-même, les blessures, la pauvreté, la nudité qui est en toi-même, c'est le Christ. Matthieu 25 me fait découvrir que le premier pauvre, c'est moi. Le premier digne de compassion et de miséricorde, c'est moi. Le premier blessé, c'est moi. Le premier pécheur, c'est moi. Et je vais faire l'expérience bouleversante de la miséricorde pour moi. Me sachant si pauvre et si aimé, comment pourrais-je voir les autres en supérieur? C'est ça Matthieu 25. Et je le disais ce matin, on ne peut comprendre les autres et les aider que si soi-même on a été blessé. Et on l'est tous. Encore faut-il le savoir, l'accepter. Et je dis à mes séminaristes, je leur donne des fois cet enseignement, je leur dis, vous ne pouvez pas être prêtre si vous n'avez pas découvert que vous êtes des êtres blessés, pitoyables. Rentrez à la maison. Vous ne pouvez pas être prêtre si vous n'êtes pas amoureux de Dieu. Vous ne pouvez pas être prêtre si vous n'êtes pas amoureux des autres et des plus pauvres. Parce que c'est preuve que vous n'avez pas découvert qui vous étiez. Mais qui suis-je même comme prêtre, pour aller dire à l'autre ce qu'il doit faire. C'est là qu'on casse les gens. Non, je ne puisse être un prêtre qui dise à l'autre « comme tu me ressembles ». Je n'ai pas les mêmes blessures que toi. Je ne suis pas cassé comme toi. Mais j'ai mes blessures à moi. J'ai mes brisures à moi, comme je te comprends. C'est saint François qui embrasse le lépreux, parce qu'il se sent aussi lépreux que lui. C'est ça, évangéliser. Sinon, il faut rentrer à la maison. Donc, vous qui avez souffert à travers une prise de conscience de votre homosexualité ou d'autres choses, vous êtes fait pour aller vers les autres. Si cette homosexualité est accueillie, acceptée, remodelée dans la deuxième œuvre du potier, si vous accueillez la miséricorde, si vous l'accueillez jour après jour, vous êtes les acteurs premiers de la nouvelle évangélisation pour dire à tout homme qu'il est aimé de Dieu. Et vous êtes en première ligne. Je crois que c'est ça Matthieu 25. Hein. Mais si ce n'est pas accepté, accueilli, refoulé, c'est clair que ça va causer des problèmes. Toute personne a ses blessures, là, je peux vous dire. Tout le monde. Et parfois, des travers bien cachés, bien cachés. Il faut des fois aller voir sur Internet, derrière les épaules de certains ou de certaines, pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent. Ne serait-ce que ça, et à d'autres exemples qu'on pourrait, mais méfions-nous des bons chics, bons genres. Et Rodoudou, voici la bande à Jésus qui est arrivée en 4x4 et qui sort les sapeurs-pompiers. Méfions-nous. Pourquoi Jésus est né dans une crèche, qu'est-ce que vous croyez? Pour nous dire qu'on le rencontre dans la faiblesse. Pourquoi Jésus il était sur une croix? C'est pour nous dire qu'on le rencontre dans la désolation, dans les blessures, dans la souffrance. C'est là où on le rencontre vraiment. Et non pas ailleurs. Voilà, pour Matthieu 25. Et des fois, quand c'est caché, c'est parce qu'on souffre du complexe du cato, du curé. Le complexe de l'exemple. Ben non. Ce serait beaucoup plus simple de dire on n'est pas des... Ouais, là, j'ai fait une recherche un peu. Je vais publier prochainement un livre pour les jeunes sur qui est le prêtre, que j'ai intitulé « Prêtre, c'est aussi une histoire d'amour ». Voilà. Et puis je représente ainsi le sacerdoce par rapport au laïc, au baptisé. Je dis le prêtre, par le sacrement de l'ordre, il est saisi par Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment une histoire d'amour. Il faut qu'un prêtre il soit fou de Dieu, qu'il ait que ça comme folie. Il est saisi par Dieu, c'est extraordinaire. Au moment de l'Eucharistie, par exemple, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est plus ses paroles à lui, c'est les paroles de Jésus, le prêtre. Comme envahi par une présence qui devient signe à travers lui, c'est quelque chose de très très beau. Et dans les sacrements, Jésus ne peut passer que par le prêtre. C'est grand. C'est grand. Est-ce que le prêtre serait-il plus grand qu'un baptisé? Non. Non. Qu'est-ce qui fait la hiérarchie de valeur entre un prêtre et un baptisé? C'est la sainteté. Un prêtre, c'est grand, parce que Jésus vraiment passe par lui pour des œuvres inouïes. Mais la sainteté, c'est encore plus grand. Et là, il y a peu de concurrence, malheureusement. Un père de famille, une mère de famille peut être plus saint qu'un prêtre. Si on comprenait mieux cela, on se battrait moins sur le sacerdoce des femmes, et je ne sais pas quoi. C'est des questions de pouvoir. Il peut, elle peut pas, il peut pas. Qu'est-ce que ça a à voir cela ? par rapport à la sainteté. S'il y a une vraie hiérarchie, c'est uniquement au niveau de la sainteté. Et là, on est tous sur la même longueur d'onde. On a à devenir tous des saints. C'est ça qui change le monde, c'est la sainteté. Le sacerdoce est l'instrument pour changer le monde, parce que les sacrements donnent une puissance divine à la manière d'un chalumeau. Mais c'est la sainteté qui change le monde, la sainteté. Donc, on ne va pas s'arrêter à des questions de sexualité, évidemment. Mais c'est dire que Dieu n'appelle pas en fonction de la sexualité. Ensuite, il faut voir si ça crée problème. Encore une fois, dans un séminaire, on le voit très vite. On le voit très vite si ça cause problème chez un jeune. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas accepter un jeune au sacerdoce s'il n'a pas assumé et intégré une tendance qui fausse aussi la relation, ou alors une tendance qui participe à sa vie de sainteté. Vous voyez ? Repréciser la question ici entre chasteté et abstinence. Je crois que c'est quelque chose que l'on confond. L'abstinence, c'est l'abstention de relations sexuelles. Point. La chasteté, c'est la manière d'aimer. Avec abstinence ou sans abstinence. Tout couple est invité à la chasteté. Dans le mot chasteté en latin, si vous voulez, c'est le contraire de incastus, qui a donné inceste. Inceste qualifie des relations de fusion où l'un est bouffé par l'autre, où il n'y a plus de différenciation. Ça, c'est l'inceste, incastus. Le contraire, c'est castus, chasteté, qui est une relation où l'autre n'est plus bouffé. C'est une relation de communion, à l'inverse d'une relation de fusion. Voyez, nous sommes tous appelés à des relations chastes. Mais si la sexualité s'insère là-dedans, je le dis souvent à des jeunes, trop vite, ça brouille les pistes. Parce que la sexualité qui n'est pas préparée, qui n'est pas la cerise sur le gâteau, ou si vous voulez, le signe d'un amour réciproque, oblatif, de don, ça va devenir le piège de l'amour. Parce que la sexualité est quelque chose de très fort au niveau sentimental, au niveau du plaisir, et des ados, des très jeunes, sont en recherche de satisfaction. Et ils croient que, parce qu'ils ont couché ensemble, ils s'aiment. Mais c'est l'illusion. Ce sont des corps qui se frottent, mais ne se rencontrent pas, et qui donnent l'illusion qu'aimer, c'est cela. Tout est érotisé aujourd'hui. Toutes les pistes sont brouillées pour faire croire à nos jeunes qu'aimer, eh ben voilà, c'est ça, mais c'est faux. Et les relations sexuelles précoces endorment le vrai don de soi, parce qu'on peut se faire du bien mutuellement pendant longtemps, et un jour, lorsqu'on découvre qu'on est différent, on ne se supporte plus, et ça devient une rupture. Et on voit des ados qui à tout moment ils sont amoureux, ils souffrent parce que ça a pété, ils sont de nouveau amoureux, puis après ils souffrent encore. C'est des histoires qui n'en finissent plus. Il n'y a rien qu'à voir de grands chanteurs. Moi, j'aime beaucoup une grande chanteuse que certainement vous connaissez tous. Je vais lui rendre hommage d'ailleurs au cimetière, là, juste en bas de où il y a la basilique, là-haut, dites-moi. Oh, qui c'est qui a deviné ? Dalida ! Oh, pendant longtemps, j'écoutais beaucoup, beaucoup dans la voiture Dalida. parce qu'elle chante les tripes. Mourir sur scène parmi les projecteurs. Enfin, vous voyez, bon. Mais elle est morte autrement. Bon, excusez-moi de ne pas être trop spirituel. Bon. Mais Dalida, waouh. Puis elle a un monument sur sa tombe, je ne vous dis pas. Alors, ça, c'est vraiment la belle Dalida. Ses grands cheveux, magnifiques. Bon. Mais pourquoi j'aime beaucoup Dalida ? Parce que je l'aime beaucoup. D'abord, c'est ça. Oui, et puis elle chante avec ses tripes, elle chante au fond cet amour passionnel et qui ne rassasie jamais. La preuve, vous écoutez Dalida, elle n'est jamais rassasiée. Et elle a une fois déjà fait une tentative de suicide, bon, la deuxième fois à cause de son, puis comment il s'appelait son fameux copain d'Italie, là. Amore, 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 amore. Bon, ben voilà, je ne sais plus comment ça va, ce chant d'ailleurs. Bref, non, je ne veux quand même pas partir sur ce sujet, rassurez-vous. Mais voilà, pour moi, c'est l'exemple type d'un amour qui n'en est pas un. C'est une recherche qui n'est jamais rassasiée parce qu'on ne sent pas le don. On sent le. Elle dit d'ailleurs, je n'existe que sur scène. À travers l'adulation. Hein. Mais je ne dis pas ça pour critiquer Dalida, puisqu'elle a fait beaucoup de bien à l'humanité, hein, et puis parce que je l'aime bien, et même beaucoup, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant des fois de regarder un petit peu tout ça. Pour moi, c'est vraiment l'exemple d'un amour qui n'est jamais rassasié, et qui est en. Il y a quelque chose de très beau parce qu'il y a une quête, c'est ça. Bon, maintenant, les jeunes ne connaissent plus Dalida, mais moi, je ne connais pas les chanteurs modernes. Hein. Mais ça serait intéressant, quand on est jeune, de connaître un peu Dalida, puis de faire la différence entre Dalida et voilà, qu'est-ce que ça veut dire aimer, quoi, tout simplement. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas un jugement que je pose sur elle, bien sûr, mais voilà. La chasteté, c'est un combat. C'est, on retrouve la Genèse, c'est refuser de prendre le fruit avant que Dieu ne me le donne, c'est-à-dire mûr, et non pas mûr. Vous voyez ? Et la sexualité trouve sa place dans ce fruit mûr où je suis capable de don et de recevoir l'autre comme un cadeau. Ça, il faudrait parler aux jeunes. Je suis sûr qu'ils seraient très à l'écoute de ça. Parce que les jeunes sont frustrés, quoi. Ils vivent des sensations fortes, hyper fortes, mais après ils sont vides. Donc ils ont besoin de nouveau de se recréer, de nouvelles sensations, pour ne pas connaître ce vide, donc d'être toujours finalement en état d'ébullition, d'être connecté, 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 puis dès qu'on n'est plus connecté, moi je vois bien chez nous avec les jeunes, dès qu'on les invite à faire du silence, mais ils ne partent pas de course. Même nos séminaristes, moi je suis impressionné, parce que là en première année, c'est l'année de discernement, il y a beaucoup de vide, volontairement, pour qu'ils remplissent ces vides par quelque chose. Tout à coup, ils arrivent et disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, on n'a plus rien. Je dis, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Non, on n'a rien à faire là. Mais enfin, on fait quoi là? Je dis, mais enfin, mais. Moi, j'ai des fois un peu de peine à comprendre. Je dis, mais enfin. Tout à coup, il y a un vide. Je leur dis, mais écoutez, mais allez prendre un livre, approfondissez quelque chose qui vous a intéressé, ou bien allez devant un sacrement. Mais ils sont complètement perdus. Parce qu'ils sont le produit d'une société où on est toujours connecté, où les sensations sont toujours en ébullition, et tout à coup on se retrouve, il n'y a plus rien, le cœur est vide, et ça devient complètement angoissant. Donc vous voyez, la chasteté, en fait, c'est accepter aussi des frustrations que l'autre ne nous comble pas. Vous voyez, quand des fois on parle avec des couples, ils mettent, on dit on veut un enfant parce que voilà, donc. Et des fois un enfant ça peut être combler un vide, et là ça marche pas. Mettre au monde un enfant, ça fait partie de cet amour gratuit, en sachant qu'un jour l'enfant partira au monde, les parents de jeunes homos, que cet enfant, peut-être un jour, il sera homo. Puis pas de vous dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait juste. Mais non. Vos enfants ne sont pas votre photocopie. Les enfants ne sont pas la photocopie des parents. Arrêtez de croire que vos enfants sont votre photocopie. Mais c'est pas vrai. Pourquoi se dire qu'est-ce qu'on a mal fait? Parce que votre enfant est homo. Mais votre enfant, il n'est pas vous. Ouais, c'est aussi ça la relation de chasteté, c'est accepter que l'autre n'est pas tel que moi j'aurais aimé qu'il soit. Sinon, on le dessine à notre manière et on se prend pour Dieu. Alors ça joue par enfant, ça joue dans le couple. Tu n'es pas celle que j'aurais aimé que tu sois. Ce n'est pas comme ça que je t'ai vu au début. Pas heureusement. Moi, je dis des fois dans les préparations au mariage, tu dis donc, le petit défaut, je ne leur dis même pas quoi, mais ils savent tout de suite, le petit défaut que tu vois chez ton copain, puis que tu es en train de te dire, dans 10 ans, je l'aurai vaincu, ce petit défaut, il sera toujours là, mais à la puissance 10. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais ils n'y croient pas une minute, quand je leur dis ça. Ils n'y croient pas une minute. Donc, voyez, la relation de chasteté, c'est pas une fois, c'est toute la vie. La relation de chasteté s'exprime aussi dans les relations sexuelles. Oh, je rentre pas là-dedans, excusez-moi, j'ai pas d'expérience, je vous dis franchement. Comment ?
Vous confessez, vous entendez l'expérience des autres.
Ouais, mais des fois, vous savez, nous, on est des montagnards, ils sont assez discrets, les montagnards, vous savez, c'est... mais, bon... Mais même là, j'entends des relations non chastes peut faire qu'avec le temps, ben, l'autre aussi se sent utilisé. Et je l'entends dire surtout par la femme qui tout à coup se sent comme violée par l'homme. Mais c'est légal, mais c'est pas forcément juste. Pour reprendre le terme de désordonné de ce matin, c'est pas désordonné, mais c'est pas juste. Donc, même dans des relations sexuelles, on doit être chaste. Vous voyez ? Donc, la chasteté, ça s'exprime tous les jours à travers le respect d'une fleur, on parle beaucoup de l'écologie, hein ? À travers le respect du trottoir pour ne pas jeter mon Kleenex n'importe comment, maintenir mon chien en laisse pour ne pas qu'il aille, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi ça la chasteté. C'est vouloir que l'autre soit autre dans sa beauté, même le morceau de trottoir. La fleur que je respecte, que je ne vais pas tout de suite arracher parce qu'elle me plaît. C'est tout ça. Même dans les paroles peuvent être chastes ou pas chastes du tout. Quand je profite de mes paroles pour séduire, quand je séduis, je veux avoir l'autre. Et ça, tout homme public est tenté par la séduction pour plaire. Tout homme public qui est amené à prendre la parole, et nous aussi les prêtres. Une relation chaste, c'est une parole qui est détachée, qui veut atteindre un but, mais ce n'est pas pour avoir l'autre. Ce n'est pas un langage incestueux, mais chaste. Vous voyez, quand Jésus, il a de très belles paroles là, quand il dit, je ne sais plus où, mais enfin il le dit, vous savez, on connaît ces paroles, celui qui aime son père, sa mère, son fils, enfin plus que moi, n'est pas digne de moi. Puis il y a une autre parole qui est le pendant chez Matthieu. Donc je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Je ne comprends pas ça. Je suis venu diviser la belle-fille de la belle-mère, le fils du père. Il a venu jeter le boxon, quoi, finalement. Alors à quoi ça rime? Je pense que dans une lecture psychologique, c'est quelque chose de très important. Jésus vient diviser des relations, surtout de famille, de fusion et d'inceste, qui font que l'autre n'a pas trouvé son autonomie. C'est ça qui vient diviser. Et ça, ça fout le boxon. D'accepter que l'autre soit différent dans une même famille. Puis que ce n'est pas un fils à papa, s'il y en a, c'est pas un fils à maman, qu'il est tout à coup différent. Voilà ce que Jésus vient rompre. Laisse chacun être ce qu'il est. Accueillir ce feu que je suis venu allumer dans son cœur. Celui qui aime son père et sa mère, son fils, etc., plus que moi, n'est pas digne de moi. Pourquoi ? Parce que entre les deux, il y a Jésus. C'est lui qui règle la bonne distance. Si je mets Jésus au milieu, je garde la bonne distance et lui va m'aider à garder la bonne distance. C'est à lui que je dois m'attacher, même dans un couple. Souvent les jeunes couples me disent, mais ça moi je ne comprends pas, alors cette parole, comment est-ce qu'on peut aimer Jésus ? Des couples vraiment chrétiens, je dis, comment est-ce qu'on peut aimer Jésus plus que ma femme ? Sous-entendu, c'est moi qui rajoute que je suis en train d'idolâtrer. Ça, c'est pas possible. Aimer Jésus plus que ma femme qui est charmante, qui est la plus belle, qui est Blanche-Neige, enfin, etc. Alors je leur dis, dans quelques années, vous comprendrez. Et dans quelques années, ils comprennent. Mais on est tous comme ça. On voudrait tous manger la pomme. Manger le réel, manger l'autre pour me l'assimiler, pour que l'autre soit tel que je voudrais qu'il soit. Alors justement, ben oui, par rapport à vos enfants, puis tout ça, ce que j'ai dit, ben c'est ça. C'est dur d'accepter que l'enfant, il soit autre que ce qu'on aurait aimé. Et puis de l'aimer malgré tout. Ça, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Pensez aux parents qui perdent un enfant dans un accident de maladie précoce. Ce que ça fait, vous imaginez ? Quel arrachement ! Alors, réjouissons-nous d'avoir nos proches différents de nous. Que cette différence puisse créer de la communion et non pas de la destruction, mais de la communion. Ben, Marie et Joseph, je terminerai par là, vous savez, quand ils retrouvent Jésus perdu au temple, après 3 jours, Marie dit, mais pourquoi nous as-tu fait cela ? Moi, ton père et moi, dit le terme grec, nous étions à la torture. Nous étions à la torture. Tout Dieu qu'il est, Jésus se sépare. Et Jésus n'est pas celui que ses parents auraient cru qu'il était. Et elle dit, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ? Ils ne comprirent pas ses paroles. Acceptez de ne pas tout comprendre de ce que deviennent vos enfants, vos proches. Pourquoi vous voulez comprendre ? Même Marie n'a pas compris tout de suite. On n'est pas plus dommage qu'eux. Acceptez d'entrer dans des relations de chasteté qui acceptent que l'autre soit différent, mais en communion et non pas en rupture. Le pire, c'est la rupture. Voilà. Il n'y a plus de questions que j'ai sous les yeux. S'il y en a peut-être comme ça. Ah. Il ne faut sans doute pas opposer la pierre vivante et la pierre noire, oui. Il s'agit en fait de 2 facettes de la même réalité. On peut dire autrement, le problème c'est la solution, ou je suis la pierre rejetée qui devient la pierre d'angle. Waouh ! Je suis la pierre rejetée qui devient la pierre d'angle. Ah bah ça c'est beau.
C'est celle qui est Dalida.
Ah, c'est Dalida. Sous les projecteurs, oui. Non, elle est trop jeune. Est-ce que vous avez des questions, peut-être à brûle pour point, comme ça? Oui.
Une question sur la doctrine de l'Église qui accompagne, qui donne des repères. Vous avez parlé tout à l'heure des relations homosexuelles qui sont décrites comme...
désordonnées.
Voilà, désordonnées. Vous avez très bien expliqué ce que voulait dire désordonnées. Par contre, il y a une phrase après qui dit qu'elles ne peuvent être acceptées en aucun cas.
Alors, l'Église parle d'actes.
Oui, les actes homosexuels ne peuvent accepter dans aucun cas. Comment est-ce qu'on peut le concevoir dans ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'ordre qui existe, l'homme et la femme, et puis les homosexuels qui peuvent avoir peut-être en couple, qui ne sont peut-être pas dans l'ordre prévu par Dieu, mais qui participent quand même...
Un désordre.
Ouais. Non. En tout cas, à la création. On est dans la création. Et du coup, comment est-ce qu'on peut... On peut faire le lien entre ce que vous disiez tout à l'heure et puis ces actes qui ne peuvent être acceptés en aucun cas.
Oui. Alors, il faut aussi lire un petit peu les autres proclamations de gens d'Église, comme encore une fois, cardinal Schönborn ou d'autres, hein, où l'idéal serait, alors je précise, l'abstinence, pas la chasteté, selon l'enseignement catholique. Mais l'enseignement catholique aussi précise qu'il y a une gradualité. C'est les chemins de montagne. Autrement dit, l'idéal serait de poindre le regard sur le sommet de la montagne. L'idéal, ce n'est pas l'abstention de relations sexuelles, c'est une chasteté épanouissante. Parce que si on s'arrête qu'à l'abstention, de nouveau, on retombe sous le poids d'une règle. Vous avez le droit jusque-là, mais plus après. Donc pour moi, la question, c'est comment dépasser la règle pour qu'un choix soit un choix libre et responsable. Alors pour certains, le choix va dans le sens de la chasteté avec abstention de relations sexuelles. Pour d'autres, c'est impossible de vivre l'abstention au risque de papillonner, ou une relation en couple devient une relation apaisante et stable. Et là, le cardinal Schönborn dit... Cette situation est un mieux, un plus, un progrès qu'il faut valoriser. Moi, je ne peux pas aller plus loin que cela. Partir de là, j'ai le droit d'exister, de vivre, et le Seigneur est avec moi, il est avec nous. Alors maintenant, encore une fois, il y a le sommet de la montagne, il y a l'idéal que peu ont réussissent à atteindre. Est-ce que ça voudrait dire que ceux qui ne sont pas au sommet de la montagne ou à 500 mètres sont exclus de Dieu? Non. Mais ensuite, il n'y a que les personnes concernées qui peuvent faire un choix et donner leur réponse et pas moi. Parce que si c'est moi qui donne la réponse, j'impose une règle et on n'est plus dans l'Évangile. Puisque dans l'Évangile, la règle est dépassée vers la responsabilité personnelle, l'autonomie et ce dialogue de la conscience avec Dieu. C'est-à-dire que moi, je peux dire ni oui ni non. Parce que sinon, on retombe dans la loi. Il n'y a que vous, en conscience, qui pouvez, dans ce lien avec... Moi, je ne peux plus rentrer là. Dans ce lien avec Dieu, décider ce qui est bien pour vous. Moi, je ne peux plus rentrer là-dedans, ça ne m'appartient plus. C'est ça que je veux dire. Donc l'Église reste un point de repère, ça reste un conseil. Ensuite, chacun doit décider en conscience de ce qui est le mieux pour lui. Parce que si je vous disais clairement oui ou non, on retombe dans la règle. Donc il a dit oui, c'est bien, on peut y aller. Il a dit non, on ne peut pas y aller. Donc on est coupable, voyez ? Alors que l'évangile dépasse la règle, dépasse la loi. La loi n'est qu'un pédagogue, dit saint Paul. Mais Jésus est venu, le pédagogue est resté derrière. La réponse vous appartient. Ce qui est le mieux pour vous par rapport à votre situation, tout en se laissant interpeller. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne devrais pas aller plus loin. Parce que sinon, on retombe dans quelque chose qui est une limitation. L'évangile est un appel de chacun, lancé à chacun. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme réponse ou vous aimeriez des précisions ?
Je comprends pas du coup pourquoi l'Église le dit. Pourquoi j'arrive à comprendre le gravement des ordonnés à la lumière de ce que vous avez dit. Je n'arrive pas à comprendre la raison théologique du fait de dire qu'ils ne peuvent être acceptés en aucun cas des actes.
Les actes. Et alors. La question théologique, oui, je pense que là, je pense qu'il y a encore quelque chose qui est à avancer. Parce que l'Église, c'est vrai, elle prend les actes de textes quand même de la Bible. Mais dans la Bible, les textes concernent. Alors, les textes qui concernent les actes dans la Bible, c'est des actes qui volontairement vont à l'encontre du projet de Dieu. De nouveau, ce n'est pas des personnalités homosexuelles. Encore une fois, quitte à me faire taper sur les doigts, je dis que la Bible ne parle pas des personnes homosexuelles, mais d'actes qui sont faits volontairement en rébellion contre le Créateur, contre le projet du Créateur. Voilà ce que dit la Bible. Alors, le catéchisme a repris des phrases presque telles quelles de l'Ancien Testament. Je pense que là, il y a encore des choses qui sont à discuter sur ces paroles-là, parce que de nouveau, on sépare les actes de la personne. Et puis, de manière un peu provocateur, moi, je pose toujours la question dans ces cas-là, mais de quel acte ? Le bec ? La caresse ? Se frotter dans le dos ? Enfin, je caricature. C'est quoi ces actes ? C'est quoi ces actes ? J'aimerais bien, je veux dire, à un moment donné, il faut détailler puisqu'on en parle. C'est quoi ces actes ? J'aimerais bien moi, qu'on écrive ce que c'est. Enfin, je ne sais pas, moi je n'ai jamais été levé la couette. Hein. Donc je ne sais pas ce que c'est ces actes. Donc là, à mon avis, il y a encore une discussion, il y a quelque chose qui doit évoluer. Si on parle de miséricorde pour les divorcés remariés, puis qu'on dit que les divorcés remariés sont des pécheurs publics, moi ça ne me satisfait pas non plus dans le catéchisme. Et que finalement, si on pousse le bouchon, ben, ce bel enfant d'un couple recomposé qui a un véritable témoignage de vie est le fruit du péché. Donc pour l'instant, moi j'attends, j'aimerais que l'Église soit plus souple dans son langage et puis qu'on comprenne déjà mieux ce que ça veut dire être homosexuel. Donc là moi j'ai un peu l'impression des fois qu'on donne une définition d'une réalité qu'on n'a pas vraiment écoutée. Voilà.
Je ressens un peu une contradiction quand vous dites que la doctrine donne un idéal. Pour répondre à la question que vous avez des collègues de France, peut-être un régime à santé pour répondre oui, c'est contradictoire. Enfin, parce que
c'est contradictoire par rapport à ce que dit le catéchisme, oui.
Il faut tendre vers l'abstinence, c'est bien ça qui est écrit.
Est-ce que l'idéal, c'est ça ?
Effectivement, c'est ce que dit le catéchisme. Là, on est quand même pris d'une ou deux choses qui ne collent pas bien.
Donc il faut un débat. Il faut un débat, parce que pour moi la vraie question c'est qu'est-ce que ça veut dire aimer quand on est homosexuel. Voilà, pour moi c'est la vraie question à débattre, et puis ensuite il faut préciser, là je pense que ça mérite encore vraiment un débat, effectivement.
Voilà,
absolument, le père dans la Bible par exemple est symbole de la loi qui rompt la fusion. La vraie question est celle-là, de nouveau, dans l'amour, qu'est-ce qui fait que je bouffe l'autre ou que je le laisse être et je le fais être ? C'est pas les relations sexuelles en tant que telles, c'est la personne qui est derrière quand même. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est à creuser. Ouais, effectivement. Encore une fois, moi, la question que je pose toujours, dans quelle mesure votre relation vous construit ou au contraire vous détruit ? Pour moi, c'est la vraie question. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Je ne demande pas ce que les gens font entre eux. Donc, moi, je réagis en tant que pasteur. D'où l'importance que le Christ soit vraiment entre les gens qui s'aiment. Entre ! Pour reprendre cette idée. Je pense que ça peut être une puissance qui défusionne, effectivement. Et là, Hébreux 4, je ne sais plus les versets, vous savez, quand il a dit cette parole qui pénètre, qui va jusqu'à la moelle, et qui dissèque tout, c'est exactement ça. Qui sépare, qui dissèque, pour rendre les gens autonomes dans des relations de communion. Et je pense que le défi de l'amour, c'est là. La sexualité n'étant que la pointe de l'iceberg. Ouais. Je pense qu'on gagne quand même à faire un peu de psychologie, puis de comparer ce que nous dit la Bible. Hein. Je pense que quand on lit le livre de la Genèse, c'est du Freud avant Freud. Quand Dieu confie à l'homme la garde du jardin, la loi, à Monsieur Adam, si on peut dire comme ça, hein, c'est à lui qui donne la... Tandis que la femme vient comme de Dieu quelque part, qui est comme la médiatrice du spirituel, celle qui va être sensible à l'intériorité, et l'homme plutôt à l'extériorité. C'est intéressant de faire des comparaisons, parce qu'il y a toute une psychologie dans la Bible, hein. Enfin voilà, on peut s'arrêter là.